Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, on va parler jeux mobiles. Et oui, le moment est arrivé, les jeux mobiles sont là. Et ivre, j'ai lancé des jeux de MOBA sur mon téléphone. On y va tout de suite. J'ai bégayé parce que j'ai lancé le générique du rendez-vous tech, ça a fait plus, plep, 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 plep. Mais bon, on revient hein, sur le live, sur Twitch, à midi le jeudi, après une maladie extrêmement compliquée à gérer, pour moi, parce que c'était pas moi qui étais malade, mais mes enfants et ma femme. Je peux vous dire que ce virus, je sais pas ce que c'est pas le Covid, on a fait le test, je sais pas ce que c'est, mais c'était pas rigolo, il y avait des trucs qui sortaient de partout. Bon, j'étais absent pendant une petite semaine du live, mais j'ai quand même fait les épisodes, heureusement. Et aujourd'hui, on a un rendez-vous jeu vraiment intéressant, parce que on explore de nouveaux territoires, de nouveaux univers, des petites choses qu'on va vous faire découvrir, comme les jeux mobiles et les MOBA. Oui, je sais, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de visibilité dans l'univers des jeux vidéo. Hein. C'est des petits secrets, mais vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir en parler aujourd'hui avec Julie Jeanniot, qui nous rejoint de Riot. Comment ça va, Julie ?
Ben ça va super, merci beaucoup pour l'invitation.
Je suis très heureux de t'avoir. C'est marrant parce que On a. Quand est-ce qu'on s'est contacté pour que tu sois dans l'émission? C'était genre en mi-novembre ou début novembre.
C'est avant la sortie d'Arkane.
Ouais, genre quelques semaines avant la sortie d'Arkane. Et je te dis, tu veux passer dans l'émission, ça fait un moment, et tu me dis, écoute, là, je suis super occupé, il y a Arkane qui sort, et je te réponds, ah ouais, ok, d'accord, bon, Arkane, il y a ce truc-là, un machin sur un jeu que je connais pas, qui va sortir sur Netflix, ok, bon, on se verra après, quoi, prenons, genre, le 2 décembre, ça sera très bien, ok. Et entre-temps, je suis tombé amoureux d'Arkane, mais enfin, j'en parle dans toutes mes émissions, les gens en ont marre, je suis sûr. Mais du coup, ça tombe super bien parce que tu es là et je suis en mode fanboy. Oh, quelqu'un qui a touché un petit peu de près ou de loin à Arkane, quelqu'un de chez Riot, est-ce que je peux avoir ton autographe, Julie, s'il te plaît? C'est vraiment, c'était inattendu et ça a une conséquence sur ce dont on va parler aujourd'hui parce que l'impensable est arrivé. J'ai joué à League of Legends, alors à Wild Rift, mais quand même. L'effet d'Arkane était inattendu. Hein. J'imagine que pour vous, c'était... Je suis sûr que vous saviez que vous aviez quelque chose de cool, mais j'imagine que ça a été un petit peu surprenant quand même, le consensus.
En fait, on savait que la série était bien parce qu'on l'avait vue. Donc, on l'avait vue, on adorait, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment objectif? Parce que forcément, on a un certain biais. Mais on reconnaissait très bien la qualité de l'animation qui avait été faite par Fortiche, du coup, studio français d'ailleurs. Et on connaissait l'attente de nos joueurs aussi. Donc dans notre communauté, on savait que ça allait bien marcher, mais on s'attendait peut-être pas à un succès qui allait même au-delà, en fait.
Ouais, c'est marrant parce qu'on en parle. Alors pour ceux, on va pas trop en parler ici. On a fait un épisode de Super Laser Punch, un autre podcast que je fais avec mon ami Johan. On en a parlé pendant 50 minutes d'Arkane. Donc on vous en a vraiment détaillé tous les secrets de notre amour. Et moi je dis dans ce podcast, et je le dis partout à qui veut bien l'entendre, c'est je crois la meilleure série animée de l'histoire, mais de toutes les séries animées du monde. C'est un chef-d'œuvre complet, ça me fait un effet que très peu de choses, genre la dernière fois que j'étais aussi retourné par une production cinémato-télévisuelle, c'était il y a des années, peut-être pour Fury Road, comme je le disais, et vraiment, je m'y attendais pas, parce que je joue jamais à League of Legends, enfin même j'irai plus loin, j'ai toujours été honnête sur ce point avec les auditeurs, j'aime pas League of Legends, enfin j'ai joué deux fois en 2015 et j'ai fermé le truc genre non, c'est pas pour moi, et Arkane m'a retourné complètement, et depuis, on a un... un Fred dans le Discord, c'est assez drôle. On a un Fred, j'ai vu Arcane et maintenant j'adore les MOBA. Et il est hyper actif et il y a plein de gens qui discutent. Alors attends, Wild Rift, tu peux faire comme ça, il y a tel rôle, tel perso, tu prends ses runes et tout, c'est hyper marrant. Et du coup, ça doit être vraiment un coup. Alors ça, évidemment, on ne le saura pas, mais c'est un coup incroyable pour Riot, parce qu'il y a une quantité de joueurs qui ne s'intéressaient pas, qui pensaient que League of Legends et l'univers de League n'étaient pas pour eux. Mais avec Arcane, ils sont rentrés dans l'univers et la qualité de la série, qui est exceptionnelle, les a aspirés. Et du coup, ils s'intéressent maintenant à plein de trucs autour de l'univers de League, dont le jeu. Et c'est marrant. On va en parler dans une seconde. Je veux juste dire quelques petits trucs avant. Donc, si vous êtes curieux d'Arcane, allez écouter Super Laser Punch. On parle de Hawkeye, parce que c'est généralement un podcast où on parle de trucs Marvel, mais on fait ce qu'on veut, c'est notre émission. On a parlé de Arcane aussi, et on a parlé 50 minutes. Il y a une bonne partie sans spoiler et une grosse partie avec spoiler. Super Laser Punch sur votre app de podcast, elle est déjà disponible. L'autre chose que je voulais dire, c'est évidemment remercier les patriotes. Mathieu Vessé, Jean Cavalier, Nicolas Ecker, Speyer, Julien Vinel, François P24, Rodrigue, Benjamin Yob, Ferd et Jim Profit. Et évidemment, les producteurs qu'on aime d'amour, Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steph Sinalco. Et c'est un moment un peu particulier pour les remerciements, parce qu'on est arrivé au bout, en quoi, 5 ans, 6 ans, on est arrivé au bout des noms des personnes qui soutiennent l'émission. Donc si vous allez soutenir là, d'ici la semaine prochaine, votre nom sera directement dans l'épisode suivant. Donc c'est notable, parce que jusqu'à maintenant, il fallait attendre un certain temps avant d'avoir son nom mentionné dans l'émission. Maintenant, ça sera en direct, en live, en plus du fait qu'il soit affiché en bas dans les vidéos sur Twitch et sur les replays YouTube. Vous avez le nom qui scrolle et mon amour et mon adoration pour votre soutien. Vous savez que c'est sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Et je remercie ceux qui le font évidemment et certains qui sont des auditeurs de longue date qui s'y collent. On en reparlera dans une toute petite seconde. Et pour l'after show, on va voir si on va faire un after show tout à l'heure. C'est encore un petit peu compliqué à la maison, mais on va voir. Et donc, on parlait de MOBA. Et quand on discutait juste avant de se lancer, Julie, tu me disais, ouais, il y a des gens qui ont été intéressés par Arcane et qui se lancent sur LoL, sur League of Legends, et qui sont peut-être un petit peu décontenancés, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine complexité dans le jeu, et que du coup, comme moi, trouvent un certain confort dans Wild Rift plutôt, qui est dispo depuis quelques mois. C'est un mouvement, je ne sais pas si vous avez déjà des retours de ce type, mais vous avez déjà vu un effet de la série sur le public des joueurs en général, ou pas encore ?
Bah, c'est encore un petit peu tôt pour dire, donc c'est surtout on suppose que... Parce qu'on voit aussi, on voit les gens parler, on voit les gens dire qu'ils ont lancé League, donc c'est un peu tôt encore pour voir au niveau des chiffres, mais clairement on pense qu'il y a une tendance. Et c'est vrai que les gens ont plus souvent tendance à lancer League, parce que bah, c'est League of Legends Series, et League est plus connu que Wild Rift, mais en fait quand ils arrivent sur League, et que d'un coup il y a presque 160 champions, qu'il n'y a pas forcément... qui est hyper bien poussé, que des gens qui sont là, ils jouent depuis 10 ans et qui sont pas forcément hyper tolérants et nouveaux, c'est parfois un petit peu compliqué de se lancer sur League aujourd'hui. Et c'est vrai que Wild Rift, c'est une bonne alternative parce que le jeu est récent, il y a beaucoup moins de champions, le tutoriel est super bien fait, c'est quand même beaucoup plus accessible, les parties sont plus courtes, donc c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour commencer les jeux Riot, donc c'est... Je trouve ça... mieux que les gens aillent sur Wild Rift plutôt que sur...
plutôt que sur LoL. Et c'est vrai que moi, c'est exactement le parcours que j'ai eu. Je ne suis pas... Alors, je plaisante souvent en disant que je ne suis pas du tout MOBA, et c'est assez vrai, mais en même temps, il y a une petite exception, c'est Heroes of the Storm de Blizzard, sur lequel j'ai passé, alors ce n'est pas des centaines d'heures comme sur certains jeux, mais c'est quelques dizaines d'heures quand même. Et du coup, ça m'a peut-être un petit peu... a pris les bases des MOBA, et donc en lançant Wild Rift ou d'ailleurs Pokémon Unite, dont je vais parler aussi, j'étais un petit peu moins perdu que j'aurais pu l'être par le passé. Je suis sûr que chez les auditeurs ici, il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu trop intimidés par League of Legends, mais qui sont amusés sur Heroes of the Storm, qui maintenant, ils jouent peut-être un petit peu moins parce qu'il est en mode maintenance, il est moins activement développé. Et qui pourrait retrouver un certain plaisir dans Wild Rift ou dans Pokémon Unite. Et ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que ces jeux sont des jeux mobiles qui sont d'une qualité telle que on a assez de... Enfin, traditionnellement, ce qu'on dit des jeux mobiles, c'est que c'est un petit peu les jeux pour qui sont... pas aussi, au-delà du fait que c'est un type de public différent, qui sont pas aussi bons ou aussi faciles à contrôler ou pas aussi satisfaisants que des jeux console ou PC. Et là, on a toute une génération de jeux qui commencent à arriver depuis, je dirais, un ou deux ans, en tout cas auxquels qui ont une visibilité chez moi, qui sont vraiment... On a trouvé la formule, quoi. On en parlait... Moi, j'en parlais avec Diablo Immortal, dont j'ai fait la bêta il y a quelques... Ça fait presque un an, je crois. Et je disais, il y a un truc. Diablo Immortal, c'est vraiment un truc fun à la Diablo sur votre mobile et ça fonctionne. Et la manette, enfin, les contrôles mobiles sont vraiment très corrects. Et c'est un petit peu la même chose sur Wild Rift et Pokémon Unite. On a un type de contrôle qui est classique aujourd'hui pour les téléphones mobiles. La manette virtuelle sur la gauche et les boutons d'action sur la droite. Et ça fonctionne super bien, quoi. C'est peut-être pas aussi agréable qu'un clavier souris et qu'une manette de console, mais les mobiles en général, j'ai l'impression, ont atteint un niveau de performance et de maîtrise du côté des développeurs qui fait qu'on peut faire des jeux qui sont dans la conversation des joueurs traditionnels console PC. Je me demande si toi, c'est un truc que tu suis un petit peu les jeux mobiles en dehors de Wild Rift et de ce que vous faites chez Riot, ou c'est pas un écosystème que tu suis beaucoup ?
Bah, je suis dans le cadre de mon travail, forcément, vu que comme je travaille sur Wild Rift, je suis obligée de tenir en compte ce genre de choses. J'ai joué à Pokémon Unite, d'habitude, déjà. Et puis tu parlais de Heroes of the Storm, j'y ai joué beaucoup aussi. Ouais. Bon, hors mobile, mais moi de base je suis pas très jeu mobile, pour être tout à fait honnête. J'ai du mal à accrocher. Pokémon Unite, j'ai beaucoup joué à ces heures-ci et j'ai complètement décroché parce que j'arrive pas à me dire je vais jouer sur mobile, en fait. Donc il y a Wild Rift auquel j'y joue et sinon je me tiens juste au courant, en fait. Et c'est clair qu'au niveau de comment on joue, de la maniabilité des jeux, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs il y a eu pas mal de jeux comme ça, Brawl Stars, etc. Ils sont très faciles à prendre en main. Et c'est cool parce qu'on se souvient, avant, les jeux mobiles, c'était pas hyper fluide, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que ces jeux-là, et peut-être en particulier le travail de Supercell, qui fait des jeux vraiment mobile natives, mais avec une grande profondeur, ils ont défriché les contrôles. Et évidemment, les contrôles, c'est hyper important pour ces jeux-là et les jeux un petit peu plus exigeants, peut-être. Et ils ont un petit peu défriché les contrôles, qui ont ensuite été améliorés par d'autres sociétés et d'autres types de jeux. Il y a plein de MOBA sur mobile, MOBA qui sont très populaires en Asie et en Chine. On parle parfois de Honor of Kings et ce genre de trucs. Je ne sais pas comment ils se contrôlent, mais j'imagine que c'est comparable. Et donc, ces jeux ont défriché les contrôles. Et aujourd'hui, on arrive à des adaptations de jeux qui, encore une fois, plaisent aux joueurs traditionnels, qui sont... Alors, Julie est peut-être un petit peu moins fan, mais moi, je prends un jeu mobile de ce type-là. Quand je suis dans mon lit avant de m'endormir ou dans le canapé et que j'ai pas trop le temps de lancer une partie ou de faire un truc vraiment, entre guillemets, sérieux sur mon PC ou ma console, eh ben je sors mon téléphone, c'est toujours disponible et c'est 10 minutes, 15 minutes de jeu qui m'amène en fait le même plaisir que j'ai quand je suis sur PC ou console, là où les autres jeux mobiles que j'avais testés, auxquels je m'étais intéressé jusqu'à maintenant, depuis 10 ans ou 12 ans que les jeux mobiles sont quelque chose de sérieux, c'était pas le même plaisir. On était sur des trucs beaucoup plus, comment dire, comme je l'ai défini parfois, c'est des time wasters, des petits jeux auxquels on joue quand on a du temps à perdre, je vais remonter un peu loin, mais les Angry Birds, les Fruit Ninja, ce genre de trucs, et les Endless Runner, enfin tous ces trucs-là, alors que des trucs comme Pokémon Unite, Wild Rift, ou bah, Diablo Immortal, sur lequel j'ai passé un petit peu de temps pendant la bêta, et bah, c'est des jeux qui sont du plaisir vidéoludique qui est très comparable à mon plaisir que j'éprouve sur console ou sur PC. Et donc, il y a vraiment une maturité de l'ensemble de ces trucs qui convergent pour créer une expérience qui est, à mon sens, alors qui ne va pas remplacer ce qu'on fait traditionnellement sur PC ou console, mais qui vient s'ajouter à ce qu'on peut avoir comme corde à notre arc, en fait. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont l'image des jeux mobiles d'il y a encore quelques années, mais de plus en plus se rendre compte à quel point un truc comme Wild Rift, bah c'est du, il y a plein de gens sur le Discord, je pense à Jules notamment, mais il y en a d'autres qui m'ont dit mais vas-y essaye Wild Rift, tu vas voir, c'est super sympa, super, c'est super cool, etc. Bref, pardon, tu disais. On va parler de plein de choses de jeux mobiles, mais je voudrais quand même parler plus précisément de Wild Rift et de Pokémon Unite, parce que j'ai passé, justement, entre les éternuements, les vomis et autres miasmes, j'ai passé beaucoup de temps sur Wild Rift parce que je pouvais, et sur Pokémon Unite parce que je pouvais y jouer pendant 15 minutes et en sortant mon téléphone. Pour ceux qui ne sont pas des joueurs de MOBA et qui sont intimidés par des trucs comme Dota ou LOL, je dirais que en type de complexité, en fait, Wild Rift se situe peut-être un petit peu plus complexe que Heroes of the Storm, mais la première expérience est quand même très... très très bien faite, et comme tu le disais, le tutoriel est super efficace. C'est-à-dire qu'on va faire, je sais pas, 10 minutes, 20 minutes de tutoriel et on sait vraiment comment jouer la base du truc. Et bien sûr, quand on arrive à un niveau un petit peu plus élevé, ça devient peut-être problématique de connaître toutes les complexités du jeu. Mais au début, si on a touché un tout petit peu à un autre MOBA, à Heroes of the Storm, encore une fois, on est complètement dans des pantoufles et on peut se lancer avec un héros et avoir cette expérience de manière satisfaisante sur Wild Rift. Et en plus, l'expérience est, comment dire, c'est un jeu free-to-play, comme on peut en avoir sur console ou PC, mais qui ne va pas être plus envahissant dans ses aspects free-to-play, contrairement à Pokémon Unite, qui lui est un petit peu avec 12 000 monnaies différentes, on ne va pas comprendre laquelle fait quoi, etc. Alors, il y en a quand même dans Wild Rift, hein, mais c'est un petit peu plus clair, c'est un petit peu plus compréhensible. Et en plus, le niveau de réalisation de Wild Rift est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a des animations de folie. Chaque héros, quand on passe d'un héros à l'autre, il a sa petite animation badass qui va venir nous impressionner, nous exploser les yeux sur l'écran. On a les différentes animations de transition qui sont super sympas. Il y a ces flourish, comme on dit en anglais, qui ont été peut-être introduits par un truc comme Hearthstone. J'ai beaucoup de références de Blizzard, mais qui vraiment rend chaque interaction agréable. Et du coup, Wild Rift est un vrai plaisir vidéoludique dès qu'on se lance dedans, quoi. Je trouve que c'est une vraie réussite et je comprends pas pourquoi j'ai mis tellement de temps à m'y intéresser. Il est sur mon téléphone depuis un moment, si je suis honnête, justement parce qu'on m'y a poussé sur le Discord, mais je m'y suis intéressé à cause d'Arcane et donc c'est un bon deal pour Riot. Je parle beaucoup, excuse-moi, mais Wild Rift, il y avait vraiment l'intention, j'imagine, t'es pas de l'équipe de développement, mais il y a vraiment l'intention de porter l'expérience League of Legends aussi proche que possible sur mobile, quoi. C'est ce type de philosophie, j'ai l'impression.
En fait, on dit souvent en interne, c'est que c'est comme League, mais c'est pas comme League aussi. En fait, on n'a pas voulu juste faire un portage de League sur mobile. On a vraiment voulu développer un jeu à part entière qui était vraiment optimisé et pensé pour mobile. Donc en fait, Wild Rift, c'est League, mais en même temps, pas vraiment, quoi. Donc c'est ce qu'on dit souvent. Et le jeu aussi, moi je le trouve. Enfin, tu parlais justement des animations, etc. Il est très beau, il est même plus beau que sur League, si on compare.
Ah oui.
Alors, si tu regardes les champions de League versus les champions de Wild Rift, les modèles 3D de Wild Rift sont beaucoup plus jolis. Le client est beaucoup plus joli. Enfin, c'est.
Ouais, ça m'a marqué. Hein. C'est un niveau de polish, de finition qui est impressionnant.
C'est pas le même moteur du tout. Mais du coup, oui, non, Wild Rift et moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'est un type jeu, mais en même temps, je suis pas très objective. le jeu est bien, il est hyper accessible, et c'est vraiment, comme tu as dit, c'est le easy to learn et hard to master, en fait. C'est facile à prendre en main, mais dès que tu commences à monter en niveau, va vraiment falloir commencer à s'intéresser à la méta, à comment se déplacer sur la carte, à comment réussir à aller plus loin, sinon tu resteras dans le silver gold et t'arriveras pas à monter plus haut. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce type de jeu, c'est que c'est très accessible, mais en même temps, il faut quand même y mettre un peu du sien pour pouvoir réussir à monter dans les classements.
C'est un peu ce que j'ai constaté assez rapidement, mais moi, à ce stade, je suis dans cette phase un petit peu cool, tranquille, où bah, je joue un petit peu, j'essaye de faire du mieux que je peux, et mine de rien, c'est pour ça que je parle de mon passif du MOBA facile Heroes of the Storm, parce que ça m'a suffi largement à pas trop mal me démerder sur la base. Et à la limite, moi, si je j'ai même pas lancé de partie compétitive, tu vois, je suis juste en quick play, et ça me va très bien pour le moment. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais me dire « Ah, il faut que je sois à fond, que je monte mon niveau, mais j'ai pas trop le temps. » Et du coup, en quick play, je prends du plaisir comme ça, sans avoir besoin d'aller très très loin dans ce que tu décris, qui est complètement une des forces de League, qui est qui s'intéresse aux gamers hardcore. Et absolument sans excuses, je veux dire, il y a beaucoup de jeux qui essayent de plaire à tout le monde. League, bah, ils plaisent à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais en se concentrant sur les joueurs hyper exigeants. Et c'est vrai qu'on sent dans Wild Rift, enfin, il y a le store, donc il faut acheter, je veux dire, en jeu, il faut acheter ses objets. Il y a les runes, il y a les sorts, il y a, enfin, plein de petits trucs à explorer pour optimiser ses persos, et puis au-delà de ça, toute la complexité du jeu de base est complètement présente. Il faut gérer ses vagues, il y a les mobs dans la jungle qui pop et qu'il faut tuer au bon moment, enfin il y a tout. Mais le tutoriel va jusqu'à t'expliquer très spécifiquement les différents rôles, et au bout de quelques minutes, je comprends vraiment, moi, alors que ça fait, enfin, comme je dis souvent, j'ai jamais touché à League en quoi 12 ans, ça fait 12 ans qu'il existe. Maintenant, je sais ce que c'est que la lane solo, la lane mid, le jungler, la duo, le support, le ADC, enfin, tous ces trucs que j'avais jamais, même, dont j'avais jamais entendu parler. Et en m'y intéressant un tout petit peu, maintenant, je comprends. Donc,
et puis, il y a plein de types de joueurs aussi. Comme tu dis, toi, tu joues pas forcément compétitif. Il y en a qui jouent seulement en ARAM aussi, qui est le mode où il n'y a qu'une seule lane, et en fait c'est juste des teamfights, en fait les gens se tapent les uns sur les autres.
C'est ça.
Et c'est ok, en fait. C'est pas obligé d'être un joueur compétitif pour jouer à Wild Rift ou même pour jouer à League.
Alors League, effectivement, je sais pas, mais c'est sûr que sur Wild Rift, tu as le mode ARAM, le mode PVP normal. Il y a aussi en jeu contre les bots, si c'est ça qu'on veut faire, et puis pour s'entraîner. Et puis il y a le mode... comment dire, classé, partie classée. Mais donc, ça fonctionne vraiment. Et j'encourage les gens qui ont été intrigués par Arcane et qui s'intéressent à l'univers de League maintenant, à peut-être y mettre les pieds. Il y a d'autres options aussi, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a d'autres options aussi pour s'intéresser aux univers de League. Je vous dis, Arcane m'a transformé. Hein. C'est vraiment Patrick, le Patrick d'avant ne reconnaîtrait pas le Patrick d'aujourd'hui. Mais bon... Je voudrais aussi quand même dire un petit mot sur Pokémon Unite. Je voudrais dire un petit mot sur Pokémon Unite, qui est vraiment un jeu intéressant. Il est disponible sur mobile et sur Switch. Et étonnamment, Pokémon Unite n'a pas le contrôle à la manette sur mobile, ce qui est un petit peu surprenant. Wild Rift n'en a pas non plus. Et d'ailleurs, alors on n'a plus de nouvelles depuis très longtemps, mais à l'annonce de Wild Rift, il avait été annoncé qu'il arriverait sur console aussi. Et donc on n'a pas de date, hein, je me trompe pas, Julie, il n'y a pas de date, il n'y a pas eu de nouvelles annonces, mais il est toujours prévu.
C'est ça. On a bien prévu de sortir sur console, mais on n'a pas encore annoncé de date.
C'est ça. Et du coup, bah, peut-être qu'il arrivera un jour. Moi, je pense que ça pourrait le pousser beaucoup de gens à s'y intéresser aussi. Parce que c'est vrai que Pokémon Unite, alors encore une fois, il est vraiment complètement contrôlable sur mobile, comme Wild Rift. C'est quand même plus sympa à contrôler sur la Switch. Mais si on pense que Heroes of the Storm était le MOBA des bébés, de manière un peu caricaturale, Pokémon Unite, alors c'est même pas des bébés, c'est le bon, c'est, on va dire Heroes of the Storm, c'était celui des enfants, Pokémon Unite, c'est celui des bébés, et c'est pas forcément une mauvaise chose. Il est hyper simple, il y a deux lanes, il n'y a pas de creep, il y a on marque des buts au lieu de détruire des tours, c'est un petit peu lissé pour plaire aux plus jeunes aussi, pour être jouable par les plus jeunes, et puis ça utilise tous les Pokémon évidemment. Mais il y a quelques idées qui sont vraiment, vraiment géniales. Par exemple, la manière dont ça fonctionne pour les matchs, c'est pas qu'il faut détruire le corps adverse, il y a une limite de temps. On est à 10 minutes par partie. Après, il y a des modes qui sont même encore plus courts, mais généralement, c'est 10 minutes par partie en 5 contre 5. Et il y a deux lanes, il y a un jungler et on doit collecter des boules de Pokémon et marquer des buts aux 3 tours. Je crois qu'il y a... Non, c'est 2 tours et puis le corps. Et marquer des buts, en quelque sorte. Donc, amener les balles jusqu'au à la tour, en quelque sorte. Et donc, c'est assez court, c'est 10 minutes quoi qu'il arrive, et c'est celui qui a marqué le plus de buts au final qui a gagné la partie. Et il y a des petits éléments, il y a évidemment... alors, il n'y a pas le baron, il n'y a pas les dragons, mais il y a des Pokémon qui vont influencer la partie. Il y a des teamfights en permanence. Il y a des bonus qu'on va avoir avec les mobs qu'on va pouvoir tuer dans la jungle. Et donc, la complexité reste quand même présente. C'est pas que c'est un jeu complètement ultra méga simpliste, mais c'est clairement beaucoup plus facile et j'ai l'impression que la profondeur est un petit peu moins là. Et entre parenthèses, je l'aime bien, mais c'est peut-être parce que je gagne beaucoup. Je crois que ma très minime expérience de MOBA m'a permis d'en connaître beaucoup plus que la plupart des joueurs à mon niveau lamentable, mon niveau de classement très très faible, parce que les gens commencent à peine maintenant, au bout d'une dizaine de parties, à comprendre qu'il faut marquer des points et pas juste essayer de tuer les Pokémon ennemis. Mais donc, le jeu est vraiment sympa. Son défaut, je dirais, c'est que c'est un jeu qui est développé par Tencent, Timi Mobile, qui est clairement un développeur de jeux mobiles et essentiellement pour le marché chinois. Et donc, on a tous les... Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de faire ça. On a... une complexité dans les systèmes de récompense et les systèmes de monétisation qui est un petit peu frustrante. Comme je le disais, il y a, je ne sais pas, peut-être 5 monnaies différentes. Il y a des missions de partout, des events, des battle pass et dans plein de menus différents. Dans Wild Rift, il y a effectivement genre 3 ou 4 moyens de gagner des choses. Mais au niveau de l'interface, on sait où c'est. Alors que là, on a des trucs rouges qui s'allument de partout à chaque fois qu'on fait une partie pour « va récupérer tes récompenses ». Mais attends, mais ça donne quoi ? Ça permet de faire quoi ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut acheter ? J'en sais rien. Enfin bon. Mais ceci dit, le jeu est quand même très sympa. Le coût des parties en 10 minutes, c'est génial. C'est vraiment très, très, très malin. Wild Rift, les parties durent... Alors les miennes, généralement, c'est entre 10 et 15 minutes. D'une manière générale, je dirais que c'est autour de 15, voire un petit peu moins de 20 minutes, mais pas plus que ça. C'est très, très, très rarement plus de 20 minutes. En 15 minutes, généralement, c'est réglé. Mais donc, Pokémon, c'est 10 minutes et basta. Quoi qu'il arrive, bah, le sifflet retentit et donc c'est terminé. Et si vous aimez les Pokémon, moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec les designs des Pokémon. Je les trouve tous moches, en fait, à part Zeraora, qui est celui que je joue, celui que je main et qui est correct. En plus, il fait très mal, donc c'est sympa. Mais si vous aimez les Pokémon, je pense qu'il y aurait quelque chose pour vous là-dedans. Tu disais que tu y as joué... alors, tu parles d'un concurrent, là, évidemment. Je suis sûr que tu vas avoir un jugement un petit peu biaisé, mais tu y as joué quand même un petit peu à Pokémon Unite.
Oh, ouais, j'y ai beaucoup joué, et en fait, j'adore ce jeu, vraiment.
C'est vrai?
Je trouve qu'il y a Et ouais, je trouve qu'il y a des mécaniques qui sont super intéressantes. Le côté une partie, c'est forcément 10 minutes. Moi, ça m'arrange tellement dans certaines situations. Quand je sais que j'ai souvent beaucoup de réunions pour le travail et quand je vois qu'il me reste que 10-15 minutes, bah, je vais pas lancer une wide read parce que je suis pas sûre que ça va se terminer. Alors que Pokémon Unit, bah, c'est 10 minutes et on lance. Et c'est bien, et je trouve ça hyper satisfaisant aussi, le côté de marquer des points. Je sais pas, il y a un côté hyper satisfaisant.
Ouais.
Et c'est pas prise de tête, c'est vraiment...
Complètement.
Comme je disais, le jeu est très simple, hyper facile à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon, donc on les connaît vite. C'est rapide, c'est dynamique. Enfin, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve qu'ils ont trouvé une bonne alternative en fait aux MOBA qui peuvent parfois être assez complexes et parfois un peu prise de tête. Bah là, c'est simple et c'est limite ça me détend. Je sais pas parce que je joue à lui, mais ouais, je suis limite détendue quand je joue à Pokémon Unite. Donc c'est ça me fait ouais, ça me fait une bonne pause quoi. Donc non, vraiment le jeu j'aime beaucoup. Alors, après bon, j'ai un peu du mal à comprendre aussi tous ces systèmes de récompenses, de ce qu'on peut acheter, de à quel point ça influe sur le jeu, etc. Au début, ça allait, et maintenant, je commence à être un peu perdue dans tout ça. Mais ça ne me pose pas plus problème que ça, parce que finalement, j'y joue vraiment en mode détente et pas en mode compétitif, quoi.
Ouais, c'est un petit peu la même chose de mon côté. Il y a un petit peu, je dis que c'est le MOBA des bébés. Il y a un petit peu de complexité quand même. Hein. On a des objets, on a les coûts qui évoluent, il y a quand même un petit peu de choses à aller chercher dedans, mais oui, bon, clairement, c'est beaucoup plus détendant qu'un truc comme League ou enfin qu'un truc comme Wild Rift, où effectivement, il faut vraiment prêter attention à ce qu'on fait, quoi. C'est un vrai jeu, c'est pas juste une distraction. Pokémon est un petit
peu. Tu as dit, t'avais une connaissance sur les MOBA, peut-être qu'il y a ça aussi qui joue pour moi, vu que je joue énormément au MOBA, le jeu m'a paru. Très très simple quoi.
Ouais. Ah bah clairement, non mais même moi je le vois, hein. Même moi je le vois, il est simple, on a deux capacités plus la spéciale au lieu de trois, on a un objet ou deux qu'on peut porter et puis un objet qu'on peut activer. Enfin, c'est... Non, il y en a trois je crois. Mais bon bref, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus simple clairement. Enfin, rien qu'il n'y a pas de wave à manager quoi. Rien que ça, c'est beaucoup plus facile. Et du coup, j'imagine que... Comme certains reprochaient à Heroes of the Storm de manquer de profondeur et de skill cap, j'imagine que c'est encore plus le cas sur Pokémon Unite. Mais bon, comme tu le disais, à la limite, c'est pas grave. C'est pas forcément, on va pas chercher la même chose dans les différents jeux. Et dans le cas de Pokémon Unite, c'est plus une petite expérience tranquillou. Même si, encore une fois, l'esthétique, moi, j'avoue que, et c'est pas, je le dis pas parce que t'es là. Mais l'esthétique de Wild Rift, c'est quand même hyper, hyper cool. Tu joues à Wild Rift, t'as l'impression d'être dans un univers incroyable, t'as des héros un petit peu heroic fantasy classique, et puis... enfin bon, c'est des trucs qui sont des animations de fou, t'as l'impression d'être badass. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même ambiance, et ça ne sert pas aux mêmes choses. Mais les deux ont leur qualité. Mais clairement, sur Wild Rift, t'es sur un... Comment dire, t'as encore plus l'impression d'être sur un jeu où c'est un... Je veux pas dire c'est un vrai jeu, parce que Pokémon Unite, c'est évidemment un vrai jeu. Mais... mais tu vois ce que je veux dire, ça, tu comprends ce que j'exprime là, ou je sais pas si je...
C'est, pour moi c'est complètement différent en fait. Wild Rift et Pokémon Unite, j'ai même parfois du mal à les voir comme concurrents parce que l'expérience est tellement différente. Et même bah, esthétiquement, tu l'as dit, sur Wild Rift on a l'air d'être sur quelque chose d'un peu plus sérieux, alors que sur Pokémon Unite c'est vraiment très cartoonique, enfin c'est Pokémon quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment des expériences qui sont complètement différentes.
Clairement. Bon bah écoutez, j'espère qu'on vous aura donné un petit peu envie de regarder ce que ça donne sur mobile et sur console. J'attends avec grande impatience que Wild Rift arrive sur console, mais bon, je continuerai à y jouer, je pense, sur mobile pendant un petit moment. On va faire un tout petit détour par des trucs qui sont pas mobiles avant de parler d'autres news mobiles parce que je voudrais évoquer plusieurs choses. J'avais parlé de Rune King et vraiment l'effet Arcane, ça fait qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à plein de trucs de Riot. Et Rune King, qui peut-être m'aurait intéressé, c'est le jeu qui a été développé par Battleship Syndicate, qui est une sorte de... je crois que j'en parlais la semaine dernière, qui est une sorte de Battle Chasers Night War, en gros, hein, adapté à l'univers de League of Legends. J'arrête pas d'en entendre parler maintenant. Il est sorti, on n'avait pas la date de sortie, il est sorti genre, je sais plus, au début, au deuxième arc de Arcane, et c'était genre, bah il est dispo, allez-y. Donc plein de gens commencent à y jouer, et commencent à avoir des reviews, etc. Et j'ai le bouton, la main sur la souris ou sur la manette pour cliquer acheter, alors que j'ai pas le temps, et pourtant ça me tente à chaque fois. Mais si vous recherchez une expérience un petit peu plus solo, bah il y a Rune King, qui a d'assez bonnes reviews en ce moment. J'imagine que toi, tu y as joué, ou peut-être pas d'ailleurs.
Alors, pas peut-être pas ton truc. J'ai téléchargé, mais j'ai pas encore eu le temps de le lancer, malheureusement.
D'accord. Écoute, je pense qu'au bout d'un moment, je vais finir par me laisser tenter. On verra. Et j'en reparlerai à ce moment. Mais il y a aussi d'autres choses dans l'univers de League. Il y a Teamfight Tactics. Là, il y a quelqu'un que je ne nommerai pas qui va être content dans la chatroom. Un des personnages de Arcane, de la série, qui n'était pas dans League of Legends, va être amené dans Teamfight Tactics. C'est Silco, pour ceux qui ont vu la série. Il arrivera en février, je crois. Ça vient d'être annoncé. Et ils disent... Enfin, Riot, vous, avez dit que... c'est marrant, ça me rappelle l'époque où je travaillais dans les relations presse aussi chez Blizzard. C'était marrant. Vous avez dit donc que c'est le premier personnage qui ne vient pas de League qui arrive dans Teamfight Tactics, mais c'est peut-être pas le dernier. Et du coup, je me demande si... Alors évidemment, on pense à Valorant et des agents de Valorant qui pourraient arriver dans Teamfight Tactics, mais je me demande s'il n'y a pas d'autre chose. L'industrie fait des crossovers de plein de trucs tout le temps. Je me demande s'il n'y aurait pas des trucs qui vont arriver, d'autres jeux, si on ne va pas voir Kratos, Master Chief et Sangoku dans Teamfight Tactics. Bon, peut-être pas. Teamfight Tactics, tu peux nous rappeler ce que c'est? C'est un auto-battler, pour ceux qui ne connaîtraient pas. On n'en a pas beaucoup parlé de ces jeux dans l'émission. Tu peux nous rappeler ce que c'est?
Ouais, bah en fait, c'est un auto-chess, tout simplement, où en gros, il y a 8 joueurs qui s'affrontent et où les champions sont comme des pièces d'échiquier qu'on va mettre sur un plateau pour enchaîner les combats et éliminer les joueurs les uns après les autres pour réussir à être au moins dans le top 4, voire le top 1. Donc voilà, et à la base, en effet, il n'y a que des champions de ligue. Et là, Silco, c'est un grand moment pour tester parce que forcément, c'est déjà un énorme challenge parce que normalement, les champions qu'on intégrait, forcément, leur sort est inspiré des sorts des champions de ligue. Et là, c'est vraiment, on crée tout de A à Z juste pour TFT. Donc c'est très très cool et j'ai moi-même hâte de voir ça. Et c'est un très bon jeu aussi, qui est sur mobile aussi d'ailleurs.
C'est vrai que c'est celui que j'ai pas encore installé. J'ai pas installé Teamfight Tactics. J'ai installé Legends of Runeterra aussi. Vraiment magnifique également, la production value des jeux. Et tu sais, à la limite, je suis presque déçu que tu sois là parce que je dis du bien sincèrement de tout ça et certains penseront peut-être, mais enfin, ceux qui me connaissent sauront que c'est pas le cas, mais certains penseront peut-être que c'est parce que t'es là, alors que je dis pas du mal, mais enfin, que League m'intéresse pas depuis 10 ans. Donc, vous savez bien que si c'était pas le cas, je me priverais pas. Mais Teamfight Tactics, effectivement, il y a plusieurs jeux, des auto-battlers, auto-chess, auto-battlers, et donc, on a des unités qui font différentes choses et puis on les choisit, on les augmente, c'est un genre que je connais pas très bien. On augmente leur capacité au fur et à mesure des matchs quand on a les 8 personnes qui vont s'affronter les unes après les autres et pas dans l'ordre, mais en une sorte de tournoi. Et puis, on essaye de voir où on arrive au final. Mais c'est vraiment pendant la partie, on regarde ce qui se passe et on n'influence pas le déroulement du combat, c'est ça?
C'est ça, mais au final, on n'est jamais vraiment inactif parce qu'on est toujours en train de réfléchir à quel objet on va mettre sur quel prochain champion on va acheter. Quand il se passe rien, on va regarder le board des autres joueurs pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est pas non plus totalement, on pose les champions et puis on attend de voir ce qui se passe, quoi.
D'accord, donc on observe... Pardon.
On fight tout seul.
Le fight lui-même, quand tu dis on réfléchit à quel objet on va acheter, c'est pas sur le moment pour influencer le combat qui est en cours. C'est pour la prochaine, le prochain round, en fait, on réfléchit à comment on va faire évoluer nos champions, c'est ça ?
On peut poser des objets pendant le combat, mais bon, ça se fait très peu. C'est plutôt d'accord. Entre deux rounds, en effet.
D'accord. Et quelqu'un le demande dans la chatroom, Legends of Runeterra, c'est le jeu de cartes. C'est un petit peu en mélange entre Hearthstone et Magic. Quelque chose comme ça.
C'est ça.
Voilà. Et donc, Tuto nous dit dans la chatroom, il y a deux modes, un beaucoup plus long et un hard to master que l'autre. C'est super cool d'avoir ces deux visions. Donc, il y a un mode un petit peu plus facile et un mode un petit peu plus difficile. Thomas est un grand fan de Teamfight Tactics. Peut-être qu'il va falloir que je l'installe aussi. Décidément, Riot Games est bien Games depuis deux ans avec un S. Bon, écoutez, on va parler un petit peu plus de mobile parce que quand j'ai pensé à faire de ce sujet le sujet principal de l'émission, c'était pas uniquement pour les jeux mobiles de Riot ou pour Pokémon Unite, mais c'est vraiment pour cette tendance qui me semble être une tendance de fond où on se rend compte que vraiment les jeux qui plaisent aux joueurs traditionnels sont en train d'arriver sur mobile sous une forme qui peut leur plaire aussi. Et un exemple de ça, c'est... Oula, j'ai beaucoup de sons dans les oreilles. C'est Rocket League Sideswipe, qui est arrivé sur mobile il y a quelques jours, qui est une version de Rocket League complètement adaptée au mobile, qui est très différente de la version PC-console, et qui a... En fait, c'est bizarre, on a une sorte de vue en... Il y a le terrain, et il n'y a qu'une tranche, une coupure dans les airs, comme si le terrain était dans les airs, en fait. Je ne vais pas réussir à l'expliquer, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est du 2v2, avec... le principe de Rocket League, donc deux voitures contre deux autres qui essayent de marquer des buts sur différents modes, et les premiers retours sont également assez bons, et le jeu est dispo sur mobile, Android et console. D'autres choses que je voulais évoquer aussi, entre parenthèses, le Rocket League est quand même développé par Psyonix, qui est une société qui a été rachetée par Epic. Et du coup, Rocket League est disponible sur iOS, alors que Epic est dans le combat contre Apple. Bref, c'est rigolo. Sony a déposé un brevet pour une manette basée sur la manette PS4 qui s'accrocherait à un mobile. Et un petit peu à la manière de la manette, c'est la... Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette manette. Il y a la Backbone que j'ai, moi, qui est pas mal du tout. Mais il y a une manette de Razer, Citrix, je ne sais plus. Et donc, Sony, on sait qu'ils travaillent eux aussi sur des jeux mobiles. Et ils auraient une manette, peut-être, qui va être disponible pour être adaptée au mobile et pouvoir contrôler les jeux plus facilement. Ça serait intéressant de voir où ça va. Pour le moment, c'est uniquement un brevet. Et enfin, il y a un nouveau processeur de Snapdragon, de Qualcomm, le Snapdragon G3X, qui est un petit peu un équivalent du Tegra, qui est le processeur mobile de Nvidia. Et leur but, c'est de créer des machines mobiles, mais très sérieuses sur le jeu vidéo. Ils ont fait un concept avec Razer, qui est une machine qui n'est pas du tout destinée à la vente, mais qui est là pour montrer un petit peu ce que pourrait donner le concept. En gros, c'est à peu près une Switch qui va faire tourner les jeux cloud sur Xbox Live ou Stadia ou ce genre de choses, mais aussi les jeux Android. C'est une initiative intéressante de la part de Qualcomm, mais à voir si ça va vraiment donner quelque chose, parce que c'est une machine supplémentaire qui n'est pas une Switch, qui n'a pas les jeux Nintendo, et qui joue les jeux mobiles qu'on a de toute façon sur son mobile, mais qui peut faire plus qu'un mobile aussi. Je sais pas ce que ça donnera vraiment. Je suis curieux de savoir ce qu'en pensent les joueurs en général. Je sais pas, toi, tu dis que tu n'étais pas trop joueuse mobile, peut-être que tu joues un petit peu sur Switch ou pas. Est-ce que ça, une console qui joue les jeux Android, avec, mais qui est une console qui ressemble à la Switch, ça pourrait t'intéresser ou ce n'est pas vraiment pour toi ?
Je joue beaucoup à la Switch, mais là, je suis un peu mitigée comme toi. En fait, je ne vois pas trop l'intérêt si c'est que des jeux mobiles. Il y a des manettes qui existent pour mobile pour avoir, si on veut avoir des contrôles un peu plus qui ressemblent à la console. Donc là, j'ai juste du mal à voir tout simplement l'intérêt.
C'est ça, c'est un truc qui a le cul entre deux chaises. Je pense que c'est intéressant qu'ils développent ça parce que ça montre qu'il y a un marché qui est dynamique. Mais je ne sais pas ce que ça pourra donner parce qu'on a déjà le Steam Deck qui va arriver, qui est pour les vrais jeux PC. Et là, on peut jouer à ces jeux PC, donc ça a un intérêt spécifique. Jouer à ces jeux PC en mobilité, donc ça a un intérêt spécifique. Là, c'est pour jouer essentiellement, j'imagine, à des jeux mobiles. Et il y a des jeux mobiles cool, comme on vient de passer trois quarts d'heure à le dire. Mais il y a des jeux mobiles cool qui sont déjà sur votre mobile que vous avez avec vous. Donc, et en plus, quand c'est une machine qui fait tourner un OS, qui peut faire tourner les apps mobiles, on va commencer à tomber dans des domaines où, t'as un navigateur, et en plus, est-ce que tu peux passer des coups de téléphone avec le truc, parce que c'est comme un appareil mobile qui fait tout passer. Enfin, est-ce que tu mets WhatsApp sur ton truc, et donc, est-ce que tu... Il y a une webcam en plus sur la machine, donc... Je sais pas, ça devient un petit peu étrange. Peut-être qu'il y a des développeurs, des constructeurs qui vont s'y intéresser et en faire quelque chose d'intéressant. Mais à ce stade, c'est une bonne idée. Je suis pas sûr qu'elle ait une application, en fait. On nous dit dans la chatroom, j'aime pas utiliser la batterie de mon mobile pour jouer. Et donc, c'est un device qui est dédié. C'est vrai, c'est sûr. Mais on a déjà une Switch. Donc, enfin, je pense que la plupart des gens qui pourraient être intéressés par ça auront déjà une Switch et donc attendront les jeux sur Switch plutôt que sur mobile. Et tu dis, ah bah ouais, mais là, il y a tous les jeux mobiles qui peuvent être adaptés facilement. Ok, mais ceux qui pourraient nous intéresser, Pokémon Unite ou Wild Rift au hasard, ils n'ont pas le support de la manette. Donc, en même temps, on voit sur la review d'IGN, il y a... Genshin Impact, Diablo Immortal, Genshin Impact supporte la manette, Diablo Immortal devrait arriver avec le support de la manette, il y a Dead Cells ou des jeux comme ça, bon peut-être, à voir. Oui d'accord, Thomas amende son commentaire, je veux pas de ce truc mais j'y vois un intérêt, ok donc t'es comme nous, tu y vois un intérêt mais tu n'en veux pas non plus, et puis sur la Switch il n'y a pas Wild Rift, c'est pas faux. Merci entre parenthèses pour tous les subs sur Twitch, c'est très très gentil de votre part. Donc, puisqu'on parle de sub Twitch, je vais faire un petit détour par Patreon pour vous dire que j'adore les sub Twitch, c'est vraiment super gentil, mais le moyen de soutenir l'émission, c'est surtout sur Patreon. Un grand, grand merci à tous ceux qui font ce choix. Comme je le mentionnais, désormais, les remerciements seront d'une semaine sur l'autre. Donc, si vous soutenez l'émission sur Patreon aujourd'hui, vous aurez votre nom mentionné dans l'émission dans la prochaine. Et en plus de ça, vous savez que la politique du moment, c'est de demander si vous voulez 10 cafés par semaine ou alors 9 cafés par semaine et Patrick. 10 cafés sans Patrick ou 9 cafés et Patrick. Si vous dites 9 cafés, ça me suffit et en plus, je peux soutenir Patrick et avoir son podcast, vous pouvez peut-être considérer l'idée d'aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Le truc qui est marrant, c'est que la plupart des gens qui soutiennent sur Twitch aussi soutiennent déjà sur Patreon. Donc c'est incroyable, votre gentillesse et votre générosité ne connaît pas de limite et j'apprécie énormément parce que c'est vraiment le moyen de soutenir l'émission et le moyen de faire vivre un créateur, c'est de le soutenir financièrement comme on irait acheter un magazine, comme on irait payer un héros ou payer un battle pass sur un jeu gratuit, là c'est un petit peu la même chose. Vous avez, peut-être qu'il faudrait que je rebrand mes niveaux de soutien en une sorte de battle pass pour le rendez-vous jeu, ça serait marrant. Le Patrick Pass, Qu'est-ce que vous en pensez? Le Patrick Pass avec des niveaux que vous pouvez grinder ensuite en achetant des petits niveaux de Patrick Pass en plus pour atteindre le niveau le plus élevé qui vous donne, c'est du pay to win le Patrick Pass. Hein. Quand vous payez le Patrick Pass, vous gagnez au game du rendez-vous jeu. Bref, si vous avez, si vous avez déjà assez de café et que vous voulez mettre le prix d'un café dans un petit soutien Patreon, patreon.com/rdvjeux, un grand merci à vous tous.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Alors, la suite, c'est les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Julie, tu me parlais d'un jeu qui s'appelle The Universim, c'est ça? De quoi s'agit-il?
D'ailleurs, je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres gens qui connaissent, parce que enfin, j'adore ce jeu. En gros, c'est une sorte de jeu de stratégie de gestion, un peu à la civilisation, mais en très différent quand même, où on a une planète et on est une sorte de dieu et on va développer notre civilisation avec un arbre de technologie, des bâtiments à placer, etc. Mais il y a toute une mécanique aussi de croyants. Du coup, en fait, on doit avoir des believers qui nous permettent de générer des points de pouvoir qui nous permettent d'avoir différents impacts, de créer des sortes d'événements météorologiques ou de soigner nos petits personnages qui s'appellent des nuggets. Et le jeu est super beau. Il est hyper agréable à jouer et en même temps assez complexe. J'ai dû recommencer plusieurs fois une partie pour réussir à en finir une. Et il y a tout un côté aussi un peu écologique où on peut développer notre planète et la détruire complètement et s'imaginer partir dans l'espace pour en conquérir une autre, ou alors se dire qu'on va au contraire vraiment faire en sorte que la planète reste saine. Donc c'est vraiment sympa, je conseille beaucoup ce jeu, il est très très agréable.
C'est un jeu donc vraiment un city builder ou un god game qui est, je sais plus si tu l'as précisé, il est en early access hein, sur Steam, oui. C'est ça?
Oui, mais il est déjà assez complet. Hein.
D'accord.
J'ai l'impression de jouer à un jeu complet déjà.
Ça marche. Et donc, on a, je vois sur les trailers et les reviews que je vois en ce moment, on a une vue vraiment de la planète entière. On peut dézoomer en fait jusqu'à voir la planète entière devant nous. Et on peut zoomer jusqu'à aller au niveau des unités, donc assez proche du sol, quoi. Et on va voir chaque unité individuellement, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Et du coup, il faut construire notre civilisation pour la faire évoluer. C'est quoi le type d'évolution?
En fait, on commence à l'âge de pierre avec juste deux petites nuggets qui vont ensuite se reproduire et et grandir. Et petit à petit, on va découvrir des nouvelles technologies, avancer en fait dans les différentes aires et en fait développer la civilisation sur toute la planète.
Est-ce qu'on peut partir de la planète après parce que ça s'appelle Universim? Est-ce que ça dépasse la civilisation planétaire ou ça reste sur la planète seulement?
En fait, c'est un peu les deux branches dont je te parlais avant. En fait, tu peux totalement décider d'en avoir rien à faire de ta planète, de la détruire complètement et de découvrir ensuite des technologies qui te permettront d'aller dans l'espace et du coup de découvrir d'autres planètes. Il y a même tout un côté interaction avec les aliens aussi qui est assez intéressant. Donc voilà, assez
d'accord.
Complet.
Interaction avec les aliens, donc c'est combat ou...
Ah bah ça dépend.
Ah d'accord,
dépend
mais tu peux... D'accord,
en fait,
d'accord.
On peut avoir des échanges commerciaux, on peut avoir des aliens qui décident de nous attaquer. C'est comme une autre civilisation, en fait, avec qui d'accord. On communique.
Dernière question, donc on peut avoir une civilisation qui s'étend sur plusieurs planètes, du coup
Alors, je suis pas encore allée jusque-là, mais je crois d'accord. Que oui.
Ok, et du coup, ça peut être même Universim, peut-être qu'on peut étendre au-delà d'un système solaire, de plusieurs systèmes solaires. Bon, je ne sais pas du tout, hein, mais...
Je ne sais pas si ça va aussi loin.
D'accord. Intéressant, très bien, ça s'appelle The Universim. Et c'est en early access sur Steam. Pour ma part, j'étais donc avec mon fils malade et ma fille malade et ma femme malade, et donc on a fait un petit peu plus de temps d'écran avec mon fils, hein, ma fille est trop petite, mais on a fait un petit peu plus de temps d'écran que d'habitude. Et on a joué à deux choses. On a joué à Animal Crossing, encore. On commence peut-être à atteindre les limites, là. On est au niveau où il faut construire des maisons pour que d'autres personnes viennent sur l'île. Il commence un tout petit peu... Ça l'emmerde, en fait, de devoir construire des meubles pour que les gens viennent. Ils disent, mais on a construit les maisons. Enfin, on a placé les maisons. Pourquoi ils viennent pas? Et donc, il va pêcher. Mais par contre, il adore amener les fossiles au musée et tout ça. Enfin bref, c'est Animal Crossing. J'aime beaucoup. Je me suis découvert un amour pour Animal Crossing. Et pas que parce que j'y joue avec mon fils. mais c'est vraiment, vraiment sympathique. Et puis, on a un petit peu joué à Rocket League aussi. Parce que vous en doutez, un enfant de 4 ans presque... des voitures et du football. Évidemment, je me suis dit qu'il allait adorer. Le problème, c'est que les contrôles sont quand même un petit peu délicats. Il faut être très, très précis dans son contrôle de la bagnole. Et donc, quand c'est pas trop... Il ne faut pas trop tourner, ça va. Mais quand il essaye d'aller sur la balle... Oh, je l'ai mis en mode entraînement. Hein, je n'ai pas pourri les parties d'autres personnes avec lui. Quand il faut réussir à vraiment diriger la bagnole pour envoyer la balle dans le but, en fait, il rate la balle et ça le stresse beaucoup. Il me dit « Ah non, ça me stresse, je suis stressé, machin. Bon, » Donc, on a arrêté Rocket League. Mais on a joué un petit peu, il s'est amusé. Je me demande si dans quelques mois, on n'y retournera pas un petit peu parce que c'est un jeu qui réunit ces deux passions. C'était rigolo.
Déjà, si on arrive à taper dans la balle à 4 ans, moi, je suis impressionné. Hein. Ah oui, j'y arrive pas.
Ouais, il n'y arrive pas super bien, mais il a réussi 2-3 fois quand même. Ouais, ouais, il est. Ouais, tu sais, je l'entraîne sur Overwatch depuis qu'il a 2 ans, hein, donc il va réussir à faire des trucs de fou dans pas si longtemps que ça. En fait, je veux qu'il me carry aussi vite que possible sur tous les jeux que j'aime bien. Donc il faut s'y mettre. Et la petite, elle est encore trop jeune, elle a même pas 8 mois. Mais normalement, d'ici l'année prochaine, d'ici la fin de l'année prochaine, on va commencer son entraînement aussi. Alors bon, évidemment, il faut pas qu'elle regarde les écrans avant 3 ans. Mais ça veut pas dire qu'elle peut pas tenir une manette ou mettre la main sur une souris, hein ? Donc voilà. donc voilà pour mes aventures vidéoludiques, encore une fois avec les miasmes divers et variés, c'était pas facile de trouver du temps de jeu, et pourtant grâce à mon mobile, j'ai beaucoup joué à des MOBA, donc comme quoi. Quelques news avant de filer. D'abord, en rapport avec les discussions sur la difficulté dans les jeux vidéo, il y a une news intéressante et on va pas relancer tout le débat, juste je veux mentionner la chose. Sifu n'aura qu'un seul mode de difficulté au lancement, en tout cas, il y en aura peut-être d'autres après, mais au départ, ça sera un jeu qui sera assez difficile, assez challenging, et c'est l'intention du développeur, c'est comme ça qu'il voulait le faire. Peut-être qu'il y aura des modes plus faciles ensuite, mais Sifu, qui est un jeu assez attendu, qui arrive pendant le February Apocalypse l'année prochaine, eh ben, il aura un seul mode de difficulté. J'ai trouvé ça marrant que ça soit annoncé après ce grand débat un petit peu caricatural sur la difficulté dans les jeux vidéo dont on parlait la semaine dernière. Une autre news intéressante, c'est que Steam a encore battu le record de joueurs en simultané. Il y en avait 27,3 millions. Ce qui est vraiment intéressant à noter, 27,3 millions de joueurs en simultané sur Steam, ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart des jeux, c'est des jeux free-to-play. Alors, vous me direz peut-être, évidemment, mais voilà la liste des jeux les plus joués à ce moment. CSGO, Dota 2, PUBG, Team Fortress 2, Apex Legends, New World, Halo Infinite, Grand Theft Auto 5, Naraka Blade Point et Rust. Donc voilà les news. À noter que New World ne sort pas du top des jeux les plus joués. Donc moi je me demandais s'il tiendrait la longueur. Il semble tenir sur la longueur. Et puis une autre chose qui a à voir justement avec ça. Final Fantasy XIV Endwalker arrive dans quelques jours à peine, donc dans 5 jours, le 7 décembre, et c'est en rapport parce que New World MMO, Final Fantasy MMO, Et ils ont annoncé chez Square Enix qu'ils risquaient d'avoir des problèmes de serveurs et des queues immenses pour rentrer sur les serveurs parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à jouer à Final Fantasy XIV ces derniers mois, en partie à cause des problèmes de Blizzard et de World of Warcraft et d'Activision Blizzard. Et en partie, le problème viendra aussi du fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir assez de matériel pour installer de nouveaux serveurs. Et donc, ils ne sont pas sûrs qu'ils pourront faire face à l'afflux de joueurs au lancement. Alors, il y a toujours des longues queues, mais là, ça risque d'être encore plus le cas. Et une autre news MMO, comme quoi les MMO sont pas forcément morts, le développeur de DC Universe Online, qui est un jeu, un MMO avec les super-héros de DC, qui s'appelle Dimensional Inc. Studios, ils ont annoncé qu'ils sont en train de travailler sur un MMO Marvel, un MMO Marvel qui sortira pas avant plusieurs années, mais c'est intéressant de voir que, alors au-delà du fait que ça peut être sympa d'avoir un MMO Marvel parce que j'aime les trucs Marvel, encore un MMO, on a eu une période, je dirais 10 ans après, 8 ou 10 ans après la sortie de World of Warcraft, où tous ceux qui avaient essayé de faire des MMO pour rentrer dans la mode des MMO se sont plantés, et donc on a un petit peu laissé de côté les MMO. Mais là, on a une période stable pour les MMO qui ont tout de même toujours une certaine popularité. Alors évidemment, World of Warcraft est toujours populaire, mais on a aussi Final Fantasy XIV qui est hyper populaire, New World, bah comme je le disais, qui continue son petit bonhomme de chemin, et puis un truc comme DC Universe Online qui a sans doute pas la base installée la plus énorme qui soit, mais qui continue aussi à exister, et puis un MMO développé par Marvel. Et puis, tous les chemins mènent à Riot, ça me donne l'occasion d'évoquer le fait que Riot est également en train de développer un MMO. Vu le rythme auquel travaille Riot, on risque de le voir en 2032, mais il y a aussi un MMO de ce côté-là. Donc, les MMO ont peut-être un bel avenir devant eux encore. J'ai essayé de te provoquer un petit peu, Julie, en disant qu'on ne le verrait pas jusqu'en 2032, et tu n'as même pas soupiré, donc... Je suis un peu déçu de pas t'avoir énervé.
Ouais, pour le coup, j'en ai aucune idée en plus. Et même moi, j'attends avec impatience parce que je suis une grande joueuse de MMO. D'ailleurs, je suis très très hype par le Marvel MMO parce que j'avais beaucoup joué à DC Universe fut un temps. Et mine de rien, c'est quand même un bon jeu avec ses défauts, mais je suis étonnée qu'il n'ait pas eu plus de succès que ce qu'il a. Donc non, clairement, les MMO, ça revient bien. Et je pense que c'est... Ça a aidé le fait qu'il y ait des bons MMO qui soient sortis aussi récemment. Ça a un peu relancé la hype.
Ouais, exactement, ouais. C'est assez... Et franchement, moi, je pensais que l'époque des MMO était révolue. Et que personne ne pouvait vraiment réussir sur un MMO. Alors, New World, il n'y a pas d'abonnement mensuel, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais je pensais que la période était passée, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Rien qu'avec Final Fantasy XIV, bah, on voit qu'il y a une population hyper intéressée et qu'il n'y ait pas juste les super hardcore qui y jouent encore parce que bah, ils y jouent depuis longtemps et donc ils continuent à y jouer. Il y a des gens qui s'y intéressent encore, un public qui aime les MMO tout court et qui va aller jeter un coup d'œil, même aux nouveaux qui arrivent. Donc, à voir. Marvel MMO, on verra lequel sort le premier, le MMO Marvel ou le MMO Riot, ce qui, il y a 3 semaines, je vous aurais jamais dit ça, mais maintenant j'ai très hâte de voir ce que donnera le MMO Riot, c'est incroyable. Ma conclusion de cette année, c'est vraiment, je suis sûr que Arcane a coûté très très cher à faire, vu la qualité et vu le travail de Fortis, je suis sûr que ça a coûté très cher à faire. Mais je pense que ça reste, c'est malgré ça le meilleur investissement, le meilleur retour sur investissement qu'aura fait Riot de leur histoire. Et pourtant, Dieu sait qu'ils connaissent beaucoup de succès. Donc, la preuve ultime, c'est que Patrick s'intéresse aux univers Riot. Ça, c'était, il n'y avait pas de somme suffisante pour pouvoir faire ça. Mais bon. Projectel, on le regarde aussi avec intérêt. Certaines personnes que je ne nommerai pas ont menacé d'annuler Project L si je me mettais à Wild Rift, parce que du coup, ils auraient plus besoin d'un jeu de combat pour m'intéresser aux univers de Riot. Je pense qu'à la place, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt mettre un Wild Patrick dans Projectel. Je pense que ça serait bien mieux. Bon, bref, Dead Cells a encore un DLC qui va arriver en 2022 avec des nouvelles armes comme un requin à lancer, un allié pas très mignon, un trident et un crochet de pirate. Bon, bref, il y a un nouveau DLC de Dead Cells qui arrive encore pour 5 euros. Vraiment, le succès de Dead Cells ne se dément pas. Ils en ont vendu 6 millions de copies de Dead Cells. Dying Light 2 et Gold, on ne pensait pas voir ce jour arriver. Dying Light 2 va bien sortir, enfin, on ne sait jamais, hein. Avec Dying Light, on ne sait jamais. Mais il est Gold, donc il devrait effectivement arriver bientôt. Et il sort, là pour le coup, c'est bien le February Apocalypse. C'est le 4 février, Dying Light 2. Je l'attends pas mal, Dying Light 2. Je suis très curieux de voir ce qu'il donnera quand même. Et un autre sujet, je vous évoquais le fait que je devais résister à l'achat de 13 Sentinels Aegis Rim, qui est 30 heures de jeu, l'un des meilleurs jeux de 2019. 30 heures de jeu pour ce mélange entre un visual novel et un jeu de stratégie. J'ai résisté. Et à ne pas l'acheter pendant les soldes, j'ai peut-être bien fait parce qu'il a été annoncé sur Switch pour le 12 avril. Et je pense que c'est exactement le genre de jeu que je pourrais jouer sur Switch. Donc j'ai été bien inspiré de résister. Allez, on va passer sur les quelques news suivantes qui sont pas forcément essentielles. Le fait que Ludwig arrive chez YouTube plutôt que chez Twitch, si vous connaissez pas Ludwig, c'est l'un des gros streamers, mais pas aussi gros que les traditionnels. C'est un type qui a été extrêmement, qui a beaucoup gagné en popularité en début d'année parce qu'il avait fait un stream où il streamait, je sais plus combien c'était, 10 minutes de plus pour chaque nouveau sub, ou une minute de plus pour chaque nouveau sub. Il a fini par streamer pendant genre un mois ou un truc du genre, c'est devenu une super mode et il a continué à gagner en popularité et il est passé aussi sur YouTube. C'est une habitude maintenant, il y en a de plus en plus qui font ça. Et puisqu'on parlait d'Activision Blizzard, il y a 6 États qui ont prévenu Activision Blizzard, 6 États américains, qui ont demandé des comptes, on va dire, à Activision Blizzard. La raison pour laquelle ils sont légitimes pour faire ça, c'est que ils ont des fonds de pension qui ont investi dans Activision Blizzard. Alors, on ne sait pas quel pourcentage des actionnaires ça représente, mais ils ont demandé de parler au board d'ici au 20 décembre. Tout ça pour dire que la pression continue à s'accentuer sur Activision. Il parle évidemment des problèmes de Bobby Kotick. On ne sait pas ce que ça donnera, mais il continue la pression continue à arriver de différents endroits, de différents domaines, en fait. Et c'est assez intéressant à noter. Bon, là, c'est des États, mais ce n'est pas au niveau judiciaire, hein. C'est juste qu'ils ont des investissements chez Activision Blizzard, ce qui compte aussi, évidemment. Et puis, puisqu'on cherche parfois les bonnes nouvelles, les actionnaires de Microsoft ont voté pour une proposition inhabituelle, qui est que le board publie un rapport sur l'efficacité des mesures anti-harcèlement sexuel de la société et sur les problèmes qu'ont pu ou que peuvent poser les executives. Alors, c'est les actionnaires qui ont voté, donc les dirigeants, hein, les exécutifs. Les actionnaires ont voté, c'était une proposition d'un actionnaire minoritaire activiste, et le board avait recommandé de voter contre. Parce qu'il disait, on a déjà des rapports internes qui sont faits, c'est suffisant. Les actionnaires ont estimé que non, il fallait des rapports externes, des audits externes et publics. Et du coup, la mesure a été votée. Je pense que c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens et ça montre un petit peu un changement des mentalités et l'importance de parler de ces problèmes. En tout cas, c'est Microsoft, donc c'est tech, mais ça concerne aussi Xbox, évidemment. Donc, c'est plutôt une bonne chose et c'est un contraste assez violent avec ce qui se passe parfois ailleurs dans l'industrie. Et voilà, je crois qu'on a couvert un petit peu tout ce qu'on voulait couvrir. On a fait à peu près le tour. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec moi, de m'avoir laissé parler de MOBA pendant à peu près 45 minutes. C'est pile la bonne personne pour faire ça. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver un petit peu sur Internet quand tu n'es pas dans l'émission ?
Yes, bah, majoritairement sur Twitter. C'est le @JulieJagnot, tout attaché.
@JulieJagnot.
C'est classique. Et globalement, c'est tout. C'est vraiment le seul réseau social sur lequel je suis active.
D'accord, ça marche. Bah, écoute, on va te laisser retourner à ton boulot. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je te demandais, je crois, avant l'émission, vous n'êtes pas trop crevé après ce florilège dans la boîte de sortie, parce que Arkane, c'était un gros morceau, mais il y a des choses qui sont arrivées en même temps avec Rune King et les autres jeux. J'imagine qu'il y a plein de gens qui se sont intéressés à vos productions, qui ne s'y intéressaient pas forcément avant. C'est pas trop épuisant ?
Bah, on est fatigué, mais on est tellement content parce que, mine de rien, c'est rare d'avoir autant de positivité. Alors là, vraiment, tous les messages qu'on reçoit, ils sont super positifs, les joueurs sont super contents, donc même si on est crevé et qu'on a hâte d'être en vacances, c'est quand même un super moment en ce moment pour nous.
J'imagine qu'il y a eu un plus qu'un ouf de soulagement quand les premiers retours sont arrivés sur Arkane. Un ouf de soulagement et puis une sorte de, je sais pas, les yeux écarquillés, mais vraiment, tout le monde adore, parce que, comme on disait dans...
Les notes qui sont tombées et tout, enfin, c'est vraiment, c'est assez fou comme moment.
J'espère que vous avez fêté ça comme il se doit et avec Fortiche, qu'il ne faut pas oublier, comme tu les mentionnais. Et en tout cas, moi, je suis très, très heureux que ça se passe aussi bien, parce que c'est une preuve qu'on peut faire des choses hyper intéressantes dans notre domaine aussi avec le jeu vidéo. Donc, j'espère que d'autres prendront ces initiatives aussi sérieusement que vous à l'avenir. Pour ma part, c'est NotePatrick. Vous allez sur notepatrick.com pour voir tous mes liens, et vous trouverez aussi sur notepatrick.com le lien vers Super Laser Punch, le podcast où on parle souvent de films et séries Marvel, mais aussi d'Arkane dans le dernier épisode. Donc vous trouverez les liens directement sur votre app de podcast, enfin pour votre app de podcast sur notepatrick.com. Vous allez voir, c'est très bien fait. Il y a un petit cartouche, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez le lien vers Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, etc. etc. Vous pouvez aussi trouver le lien dans le petit cartouche Rendez-vous jeu sur patreon.com/rdvjeu pour soutenir l'émission si vous le souhaitez, ou juste pour aller regarder un petit peu de quoi il s'agit. Vous allez y jeter un coup d'œil et je pense que vous trouverez votre bonheur dans les niveaux de soutien, et vous trouverez le mien évidemment également. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci encore à Julie d'avoir été avec moi, et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.